Vous écoutez RFI, la radio du monde, bienvenue. Il est 2h à Paris, 1h en temps universel.
Antoine Galen.
À la une de l'actualité, Mayotte dévastée après le passage du cyclone Chido. Emmanuel Macron sera sur place dans quelques jours. Pour l'heure, le défi le plus important est de fournir de l'eau potable à la population. Bachar al-Assad sort du silence. L'ex-président syrien évacué en Russie qualifie les nouveaux dirigeants du pays de terroristes. Et puis en Géorgie, les manifestants pro-Europe sont toujours dans les rues. Plus de 400 personnes ont été arrêtées ces 12 derniers jours. La majorité a affirmé avoir subi des violences, vous l'entendrez. Mayotte dévastée après le cyclone Chido. Les autorités redoutent un bilan de plusieurs centaines de morts. Ce lundi, 25 premiers patients ont été évacués vers La Réunion. Une course contre la montre engagée pour venir en aide à cet archipel français de l'océan Indien. Philippe Bonnet, directeur des urgences pour Solidarité Internationale, a pu établir le contact avec ses équipes sur place. L'ONG prépare une mission pour envoyer des renforts. L'un des défis les plus urgents, c'est de fournir de l'eau potable à la population.
Aujourd'hui, il y a des retenues collinaires dans lesquelles il y a de l'eau. En gravité, elle alimente une partie de la ville, mais faute d'électricité, les stations qui peuvent potabiliser cette eau ne sont plus fonctionnelles. La compagnie qui gère les eaux est en train d'aller de structure en structure pour voir ce qui peut être relancé. On imagine que dans un avenir proche, l'eau va de nouveau couler, pour, en tout cas pour les quartiers qui étaient connectés au réseau. On sait que beaucoup de gens n'avaient pas accès à l'eau. Mais l'eau ne sera pas potable tant que l'ensemble du réseau pourra être établi, qu'on pourra réacheminer sûrement du chlore et les éléments pour traiter l'eau. Nos équipes ont commencé d'aller dans les centres d'hébergement pour distribuer des aquatables pour chlorer l'eau, des filtres et faire en sorte que les gens qu'on arrive à retrouver dans ces centres d'hébergement aient accès déjà à l'eau potable.
Des propos recueillis par Pauline Glaise. Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il se rendra à Mayotte dans les prochains jours et qu'il y décrétera un deuil national. Direction la Syrie désormais. Bachar al-Assad sort du silence. « Mon départ de Syrie n'était pas planifié », ce sont les mots du président syrien tombé il y a plus d'une semaine après la prise de Damas par une coalition rebelle. Une déclaration dans un communiqué publié sur Telegram, écrit vraisemblablement depuis Moscou où il a fui. Théo Renaudon, dans cette prise de parole, il dément avoir abandonné le pays avant l'effondrement de son régime.
Il laisse entendre qu'il aurait voulu s'exprimer avant, mais que les coupures de communication l'en ont empêché. Bachar al-Assad fait dans ce communiqué le récit du samedi 7 et dimanche 8 décembre. Les rebelles islamistes assiègent alors Damas. Bachar al-Assad, lui, affirme qu'il est resté dans la capitale syrienne jusqu'au dimanche matin avant d'être exfiltré vers Latakia, là où se situe une importante base russe en Syrie. De cette base, il assure qu'il a voulu superviser les opérations de combat, mais trop tard. À ce moment-là, son régime est déjà tombé. Selon son récit, à son arrivée, plus d'ordre à donner, ses soldats ont fui et la base militaire russe dans laquelle il dit s'être réfugié est ciblée par des drones. Acculé, ce n'est qu'à ce moment-là, le dimanche soir, qu'il est évacué. Direction Moscou. Aujourd'hui, Bachar al-Assad dit que l'État syrien est tombé aux mains, je cite, de terroristes. Il écrit néanmoins être rempli d'espoir que la Syrie sera de nouveau libre et indépendante un jour. En attendant, il promet de publier un compte-rendu détaillé des événements lorsque, je cite, l'occasion le permettra, sans plus de précision.
Pendant ce temps, les contacts s'établissent peu à peu avec le gouvernement de transition syrien. L'Union européenne a annoncé l'envoi d'un représentant. Une délégation française et anglaise est aussi attendue. L'armée américaine a annoncé de son côté avoir tué ce lundi 12 membres du groupe État islamique lors de plusieurs frappes aériennes en Syrie qui ont visé, je cite, des dirigeants, des combattants et des camps du groupe djihadiste. En Géorgie, un sapin de Noël géant devant le Parlement, mais l'ambiance n'est pas à la fête. 19e jour de mobilisation pour les manifestants pro-Europe qui dénoncent des élections législatives truquées. Le parti au pouvoir a nommé Mikhaïl Kvelashvili comme président, un ex-footballeur d'extrême droite. Les États-Unis, très préoccupés par l'état de la démocratie géorgienne, déclaration du porte-parole du département d'État, Matthew Miller. De multiples cas de violences policières contre des manifestants et des journalistes ont été documentés par des ONG et l'opposition. Une répression qu'ont dénoncé les États-Unis. Les manifestants sont donc tous les jours devant le Parlement. Ils résistent dans leurs bras de fer malgré la répression des forces de l'ordre. Plus de 400 personnes ont été arrêtées et battues ces 12 derniers jours. La majorité a affirmé avoir subi donc des violences. Notre envoyé spécial à Tbilissi, Julien Chavanne et Irma Inarziz, ont pu en rencontrer.
Sandro Metrevelli a vécu une nuit de cauchemar le 6 décembre dernier. Cet étudiant en cardiologie quitte la manifestation devant le Parlement, mais des policiers anti-émeutes l'arrêtent.
Ils m'ont emmené dans un coin de la place et ils ont commencé à me taper. Ils me donnaient des coups de botte. Ça a duré plusieurs minutes. Ils m'ont ensuite jeté dans un minibus où ils m'ont menotté.
Sandro est finalement relâché puis condamné à une amende de près de 800 euros. Ruti Bokolishvili, un entrepreneur de 31 ans, a connu la même histoire, une arrestation arbitraire et un tabassage en règle par les policiers.
Ils nous disaient « Pourquoi vous manifestez? Vous jetez des pierres sur nos gars? Vous n'êtes pas des patriotes ?» Le message principal, c'était « Vous voulez cette Europe dépravée, cette Europe d'homosexuels ?»
Ruti a déjà repris le chemin des manifestations. Sandro, lui, doit encore rester au calme pour soigner ses blessures.
J'ai du mal à regarder les membres de ma famille qui s'inquiètent dès que je sors de chez moi. Ils ont peur que je me fasse tabasser dans la rue par les titouchkis.
Les titouchkis, des civils payés par le gouvernement pour attaquer les manifestants jusque chez eux, faire peur aux protestataires pour les décourager de manifester. La répression n'a pour l'instant pas brisé la contestation. Julien Chavanne, Tbilissi, RFI.
RFI, 20h06, à Ottawa, au Canada. La vice-première ministre démissionne. Chrystia Freeland n'était pas d'accord avec le premier ministre Justin Trudeau. En cause, les menaces de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 25% sur tous les produits canadiens. Une décision lourde de conséquences, car le Canada a pour premier partenaire économique les États-Unis, où partent 75% de ses exportations. La nouvelle administration américaine poursuit une politique de nationalisme économique agressif. Ce sont ces mots dans sa lettre de démission publiée sur X. Celle qui était également ministre des Finances a longtemps fait partie de la garde rapprochée de Justin Trudeau. En Bolivie, Evo Morales est dans la tourmente. Un mandat d'arrêt pour traite d'êtres humains à l'égard d'une mineure a été émis contre l'ex-président. En cause, une relation avec une adolescente de 15 ans avec laquelle il aurait eu une fille en 2016. En France, 10 jours après la censure du gouvernement de Michel Barnier, les députés étaient de retour ce lundi sur les bancs de l'hémicycle. En l'absence de budget pour 2025, ils ont examiné le projet de loi spéciale qui vise à assurer la continuité de la vie nationale et le fonctionnement régulier des services publics. Un texte technique sans portée politique, a expliqué le ministre démissionnaire de l'économie Antoine Armand. Une adoption à l'unanimité, mais avec quelques tensions sur Charlotte Urien-Tomaca.
Deux objectifs pour ce texte, continuer à lever l'impôt et permettre à l'État de contribuer à émettre de la dette afin d'assurer la continuité des services publics. S'il vise seulement à éviter la discontinuité budgétaire, le texte n'est pas la reconduction du budget de l'année dernière, a expliqué le ministre de l'Économie Antoine Armand. Adopté par les 481 députés présents dans l'hémicycle, le projet de loi comprenait 3 articles techniques. Ce lundi, la présidente de l'Assemblée nationale avait déclaré irrecevables les amendements qui proposaient d'indexer sur l'inflation le barème de l'impôt sur le revenu. Une décision que les députés LFI voient comme un abus de pouvoir de la part de Yaël Braun-Pivet. Même son de cloche du côté du RN, et c'est désormais au tour du Sénat de se pencher sur le texte. Les élus de la Chambre haute l'examineront ce mercredi.
Et pendant ce temps, le temps presse pour la formation d'un nouveau gouvernement. François Bayrou a terminé une première série de consultations ce lundi. Il reçoit les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale par leur ordre d'importance jusqu'à mardi. La France insoumise a décliné l'invitation. Et avant de terminer ce journal, quelques mots de football. Le nom du joueur africain de l'année est tombé. Ademola Lookman succède à son compatriote Victor Osimhen. L'attaquant de l'Atalanta Bergame en Italie a connu une année exceptionnelle. Une victoire en finale d'Europa League contre les Allemands du Bayer Leverkusen avec un triplé et une finale en Coupe d'Afrique des Nations face à la Côte d'Ivoire. Il est presque 2h10 à Paris, 1h10 en temps universel. Bonne suite des programmes sur RFI.